En tout cas, je remercie le professeur Caillé de son invitation et c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec des collègues sur des sujets qui sont pour nous tous des sujets de préoccupation essentielle. Alors, comme vous l'avez dit, je suis engagé au sens, je ne suis pas un Européen de longue date, mais je suis devenu un Européen progressivement au contact d'une réalité qui évoluait, et en particulier dans le domaine universitaire. Donc je vais vous parler de l'Europe universitaire en formation. Certains experts de Bologne qui sont ici en connaissent une grande partie, et je ne vais pas leur apprendre grand-chose, ainsi que peut-être à d'autres. Donc c'est plus une façon de présenter les choses et peut-être de dialoguer avec vous sur tel ou tel sujet qui vous paraîtra important. Donc le premier élément de cette Europe universitaire, c'est le fait que c'est une Europe qui se construit progressivement et dont je rappellerai des étapes que vous connaissez. Il y a d'abord Erasmus, qui est quand même le moment qui a ébranlé un peu tout le monde dans cette construction, qui a incité tout le monde à réfléchir et qui date de 1987 et qui, parce qu'on va voir que ça a quand même tout ceci a une certaine importance, est une œuvre de la Commission, est un programme lancé par la Commission, donc dans un espace qui est celui de l'Union européenne de l'époque, 1987, je ne sais plus si on est à 12, probablement, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, je n'ai pas vérifié, mais d'une petite Europe à l'époque. Et puis on a deuxième temps, que nous connaissons bien, puisque le terme nous est souvent prononcé, c'est 98-99, alors on met deux dates parce qu'il y a eu un épisode à la Sorbonne en 98 avec quatre ministres, dont Claude Allègre à l'initiative de l'opération, qui est une opération qui a à la fois lancé le processus, mais qui a suscité aussi beaucoup d'hostilité de la part de tous ceux qui en avaient été exclus, puisqu'il n'y avait que quatre pays à l'époque, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et la France, et que quatre ministres qui se réunissaient, et que tous les autres ont un peu mal pris, comme chaque fois qu'en Europe, notamment des grands pays tentent de lancer des opérations entre eux, d'autres pays estiment qu'ils ont aussi droit à la parole et sont aussi concernés, et par conséquent, il y a eu des réactions. Donc ça, c'est une logique différente. Autant Erasmus, c'est la logique de faire bouger les étudiants, d'une mobilité étudiante, qui donne évidemment amène des collègues et des étudiants à se lier les uns aux autres et à travailler ensemble. Là, c'est une logique qui d'abord n'émane pas de la Commission, c'est même une opération au départ anti-Commission, donc c'est une opération des ministres qui, en tant que telles, veulent faire respecter leurs prérogatives puisque l'Union européenne n'a pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Donc, ils veulent faire respecter leurs prérogatives et donc discutent entre eux de la façon de créer un espace européen, c'est-à-dire de donner plus de cohérence à des systèmes nationaux qui sont très différents et de poser aussi cet ensemble un peu mieux organisé par rapport à l'extérieur. Et donc, il y a ce double, une volonté de se rapprocher et une volonté de se différencier ou de marquer cet espace européen. Donc ça, c'est le deuxième moment. Et puis, un troisième moment, qui est l'articulation qui s'est faite progressivement, mais qui a été posée dès l'année 2000, enfin, la nécessité en a été posée dès l'année 2000, parce qu'il y a un espace européen de la recherche qui est lancé dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et de cette fameuse phrase que tout le monde connaît bien, qu'on répète et dont on oublie évidemment la fin, parce que la fin est moins intéressante que le début. Le début est plus grandiose, puisqu'il s'agit de devenir l'économie de la connaissance, comme vous le voyez, la plus compétitive et la plus dynamique du monde. En général, on s'arrête là. Mais la phrase et la stratégie globale, elles comportent d'autres éléments qui, effectivement, ont été quelquefois un peu perdus de vue, délibérément, politiquement, j'en sais rien, mais enfin, bon, bref, ils ont été perdus de vue. Mais la phrase complète, c'est celle-là. Et c'est une stratégie globale lancée par la Commission, validée par les gouvernements, mais qui se situe dans le cadre de l'Union européenne. Et qui lance, dans le prolongement, puisqu'il s'agit de faire l'économie de la connaissance la plus compétitive, évidemment, la recherche est un élément fondamental. Donc, l'espace européen de la recherche, le terme est employé dès l'année 2000, et la liaison va se faire progressivement vers les années 2003 avec le processus de Bologne. Mais vous voyez que vous avez des étapes successives et des processus complexes, des enchevêtrements dont on va voir que ce ne sont pas simplement des enchevêtrements entre des processus dont les noms diffèrent, mais aussi qui représentent des réalités un peu différentes. Alors, voilà la construction progressive. Bien entendu, on verra où on en est et quels sont les problèmes plus tard, mais quand même, il faut qu'on regarde d'un peu plus près cette construction. Et regardant cette construction, première chose, et je me centrerai par rapport au processus de Bologne, qui, dans ces trois éléments, est indiscutablement le plus à la fois important pour les universités, le plus marquant pour les universités dans tous les pays, mais qui n'est pas le seul, comme nous venons de le voir. Et qui nous amène à voir qu'il y a une construction qui est quand même très différenciée dans cet espace européen de Bologne, avec, selon les pays, des rythmes de construction qui vont varier et qui continuent à varier. Alors, je vous ai extrait d'un document qui s'appelle Trends, qui est fait par l'Association européenne des universités, et qui s'efforce de rendre compte de l'état d'avancement. Alors là, vous avez, j'espère que la date, oui, la date apparaît clairement, 2002, donc très peu de temps après, et vous avez, selon l'intensité du bleu, les pays qui se déclarent, ou les universités, les pays dans lesquels, en bleu foncé, 85 à 100% des universités ont adopté les trois cycles. On est en train de parler des trois cycles et de l'application des trois cycles, c'est-à-dire qui ont, et surtout qui ont un cycle, à l'époque, c'est surtout un cycle court, un cycle long, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bachelor and master, chez nous la licence et le master. Mais c'est cette réalité. Et donc vous voyez que, bien, ça dessine une Europe où l'Angleterre, qui s'estime dès le départ avoir fait être en état de, puisqu'ils ont, ils ont la terminologie est là, mais vous voyez qu'après c'est différencié et que l'Europe de l'Est ne se place pas si mal dans cette situation, c'est plutôt relativement engagé, et que l'Italie, avec le ministre Berlinguer qui était là au moment de la Sorbonne et qui a pris tout de suite les choses en main avec la conférence des recteurs italiens, et qui très rapidement, dans un pays qui était pour lequel c'était difficile, s'était forcé de mettre en place la structure, de créer dans les universités, je parle des universités, un cycle court, ce qui, dans la problématique italienne comme dans la problématique allemande, est vraiment un problème. Ils ont la tradition, dans les universités, uniquement d'études longues. Et donc, l'universitaire et l'étudiant, mais surtout l'universitaire, ne se sent bien qu'avec un étudiant qui est passé pendant 5 ans, théoriquement, et en fait 7 ou 8 ans quelquefois, que ce soit en Italie ou en Allemagne, pour arriver à obtenir ce diplôme. Et on leur dit maintenant, il faut qu'en 3 ans, vous sortiez des gens qui soient diplômés de votre université, c'est-à-dire dans l'esprit des universitaires que nous sommes et que nous connaissons bien, des gens qui aient les caractéristiques permettant d'être dignes du diplôme et du nom de cette université. Et évidemment, c'est un traumatisme, parce que la seule remarque que à ce moment-là un collègue fait, c'est comment faire en 3 ans ce que je faisais en 5 ans. Ce qui évidemment n'était pas le problème de Bologne, mais qui est la réaction instinctive d'un universitaire à qui on pose la question d'un diplôme court universitaire. Dans la mesure où il existe dans ces pays, et surtout en Allemagne, avec les Fachhochschulen, d'autres entités, d'autres établissements qui, eux, ont la tradition de faire des formations courtes, mais qui sont considérées, alors je schématise un petit peu puisqu'on n'est pas dans la même problématique, mais comme nous considérons éventuellement des IUT par rapport à des diplômes d'université, de maîtrise ou a fortiori de DEA ou de DESS dans l'ancienne terminologie. Donc tout ceci est problématique. Donc voilà une carte de 2002, et si on va plus loin maintenant, voilà la carte de 2006. La carte de 2006, toujours en bleu foncé, où là, vous voyez que les pays dans lesquels de 85 à 100% des universités, ou en bleu un peu moins foncé, de 70 à 85% des universités sont en train d'appliquer le processus des trois, enfin, sont dans la logique bachelor-master ou licence-master, sont devenus plus importants. Néanmoins, il vous reste, par exemple, l'Espagne. Hein, qui reste un pays, y compris dans la date où je suis aujourd'hui, qui est un pays qui a beaucoup de peine à entrer dans cette logique et qui a beaucoup de difficultés à se conformer avec une licence qui est plutôt de 4 ans que de 3 ans, enfin un système qui est donc qui est un peu. Et ils ne sont pas les seuls. Je pense que donc une construction qui vous montre que C'est évidemment, ça met du temps, ce qui est normal, on fait des réformes relativement profondes des systèmes, c'est plus ou moins difficile dans certains pays, et vous voyez qu'un pays comme la Suède aussi n'est pas spécialement avancé. Alors, cette mise en place, qui vous montre une construction différenciée dans le temps, elle est dans l'espace, il faut voir qu'elle est fonction des rythmes de construction, mais qu'elle est aussi dans un espace européen qui lui-même ne nous renvoie pas toujours à la même Europe. Donc vous avez, et vous la connaissez, l'Europe, l'Union européenne des 27, mais qui n'est ni la référence d'Erasmus, ni la référence de Bologne a fortiori, vous voyez le nombre, ni même la référence de l'espace européen de la recherche. Ce qui quand même, il faut qu'on réalise ça, parce que l'Europe universitaire en construction, c'est un drôle de bazar, hein, c'est un drôle de bazar actuellement. Et ça, c'est pas spécialement discuté, alors que ça paraît quand même, peut-être d'une façon un peu cartésienne, un problème quand même, pas négligeable. Et vous allez voir quand on va l'approfondir que ça pose quand même des problèmes. Alors je vous rappelle pas l'Europe des 27, vous la connaissez, vous connaissez ses contours, donc avec des cas que vous connaissez bien. Je rappelle simplement au moins deux pays qui sont hostiles à l'Union européenne dans leur politique, la Norvège et la Suisse. Un pays qui aimerait bien y être, la Turquie, pour reprendre ces exemples dont nous allons voir qu'ils ont des situations différentes. Alors voilà l'espace européen de la recherche. L'espace européen de la recherche, il vous renvoie à une Europe qui prend en compte la Norvège, qui prend en compte la Suisse, qui prend en compte la Turquie et qui prend en compte Israël. Ce qui n'est pas non plus un mince problème. Mais qui ne prend pas en compte la Bosnie. Ce qui est peut-être un moindre problème. Mais voilà une Europe qui a ses caractéristiques différentes. La structure qui fédère la recherche, il n'y a pas une structure proprement dite. Il y a un programme. Il y a le programme, il y a le septième programme cadre, ou sixième, ou cinquième, enfin, qui se sont succédés, qui sont ces entités qui amènent à dire que participent à cet ensemble les pays suivants qui sont soit les pays de l'Union européenne, soit des pays qui ont été associés par convention. Mais le deuxième entité, l'autre entité auquel on peut se référer, c'est le Conseil européen de la recherche. Et le Conseil européen de la recherche a cette même ensemble. Ce même ensemble. Donc, sont considérés comme des pays dont les caractéristiques permettent de candidater, non pas en tant que pays de l'Union européenne, mais pays associés par des conventions spéciales, les mêmes. Donc, on est dans un ensemble qui nous pose de nouveaux problèmes du point de vue de la construction de l'Europe universitaire, sachant qu'on a dit qu'on emboîtait théoriquement l'espace européen de la recherche. Donc, vous voyez, on l'emboîte, ok, on met des parenthèses et des guillemets, parce que c'est pas tout à fait un emboîtement parfait. Alors, si on regarde maintenant la carte la plus compliquée, entre guillemets, qui mélange en jaune la couleur du... Enfin, excusez-moi pour les couleurs, je sais pas bien ce que ça rend à distance. Disons que la Russie est dans cet exemple le cas de Bologne. C'est la couleur Bologne, Russie, pour que vous puissiez l'identifier. Donc vous voyez que dans ce Bologne qui est à 46 pays, entre autres, nouvel élément qui apparaît dans la carte et qui est quand même un problème à bien des points de vue, c'est la Russie, hein, ce qui est quand même vous met devant une Europe qui a certaines particularités, mais qui n'est pas dans l'Europe de la recherche. Ce dont on peut se dire, c'est quand même curieux, parce que d'une certaine façon, la Russie, ça pourrait être un élément pertinent de structuration d'un espace fort de la recherche. Donc ça, c'est la couleur de Bologne. La couleur, les limites bleues sont les limites de l'Union européenne, donc ça vous les reconnaissez, qui exclut la Norvège, qui exclut l'Islande, qui exclut la Turquie, qui exclut la Suisse et qui exclut les pays des Balkans, en gros, simplifiant. Et vous avez enfin Erasmus, qui est la couleur plus foncé, un jaune plus accentué, qui vous amène. Donc vous voyez la complexité du puzzle de l'Europe universitaire, mais qu'il faut avoir présent à l'esprit, parce que sans ça, on parle de l'Europe universitaire en construction, oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en construction. On l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui évoluent, qui profondent, mais c'est compliqué, et l'université... Enfin, je doute qu'il y ait beaucoup d'universités, malheureusement, je le dis franchement, qui aient bien réalisé ce genre de problème. Hein.
Et beaucoup d'universitaires également.
Alors, les universitaires, je m'excuse, mais j'essayais de parler de l'essentiel. Oui, mais bien sûr, mais... Mais étant autonome, il faut être responsable de l'espace dans lequel on va justement décider d'évoluer. Et quand vous faites un projet quadriennal, qui est le projet de l'université, je ne suis pas sûr que toutes ces dimensions-là soient bien perçues.
Vous n'avez jamais vu un projet quadriennal dans une université allemande ?
Non, je parle de la France. Je parle de la France.
Mais on parle de l'Europe,
ça. Ah oui, mais on y viendra. Mais pour l'instant, moi, je reste dans mon espace... dans mes problématiques d'articulation France-Europe, et qui nous amène évidemment à discuter avec des collègues, hein, ça va de soi. Je pense que si une université veut être autonome, il faut qu'elle prenne en main des problèmes de ce type-là. Elle peut très bien ne pas choisir l'espace européen, ça ne me gêne absolument pas. Hein, mais il est logique qu'on en discute. Voilà. Alors, cet élément, si vous voulez présenter... Voyons un peu quand même ce que comment on peut lire d'une façon un petit peu plus dynamique cette construction qui se fait. Alors, personnellement, là aussi c'est une vision personnelle, je pense que l'essentiel du mouvement européen, de la construction universitaire, se fait par le processus qui est le plus fort et le plus entraînant, c'est le processus de Bologne. Et ce processus de Bologne, donc, il faut quand même remarquer, ce qui n'est pas fréquent, y compris en France, que quelle qu'ait été la majorité politique, et elle a changé depuis 99, plusieurs fois, c'est resté l'élément central des réformes autour desquelles se jouaient les réformes de l'enseignement supérieur. Que vous parliez de l'autonomie, que vous parliez de l'évaluation, ce sont des éléments qui ont été portés par le processus de Bologne, dans un contexte où quelquefois le système français n'était pas du tout prêt à ce genre de choses, mais où les ministres qui arrivaient et qui d'habitude avaient la tradition de vouloir imposer une réforme nouvelle ou un schéma nouveau, se mettaient tout de suite et ne se sentaient pas la capacité de se désengager d'un processus qui avait emmené avec lui au départ une trentaine de pays, maintenant 46, et dans lequel ils se sentaient pas la capacité de dire « nous, on n'en a rien à faire ». Parce que c'est quand même difficile, même quand il y a eu des référendums et des oppositions et des non à l'Europe, que de dire on ne veut absolument pas de cette construction, il y a 45 pays, mais nous, Français, on va rester tout seuls, c'est difficile. Donc, c'est quelque chose qui marque pendant plus de 10 ans, et ça, vous n'avez pas beaucoup d'exemples identiques. Alors, pourquoi, deuxièmement, autre élément qui montre cette force, c'est que ce processus de Bologne, actuellement, amène les Australiens, les Nord-Américains, que ce soit États-Unis ou Canada, les Chinois, les pays asiatiques, c'est très clair, Singapour, etc., enfin des pays qui ont une volonté universitaire très marquée, ou qui ont des stratégies universitaires très marquées, la Chine aussi, à venir voir ce qui se passe en Europe, et qui sont inquiets. Je parle des Américains, je parle des Australiens, ils sont inquiets de cet élément qui naît dans un paysage où l'Europe, qui était très fragmentée, ne les impressionnait guère, et où ils se posent des questions, non pas que la réalité européenne soit si dangereuse que ça, mais l'impression qu'elle crée par cette dynamique, par ce processus qui dure plus de 10 ans, par le fait qu'ils voient 30 ou 46 pays discuter tous les 2 ans, les ministres se réunissant et entre-temps associant étudiants et associants, on y reviendra, université dans ce processus, parce que c'est aussi un élément qui a créé une certaine dynamique, ils se posent des questions. Ils se posent des questions et ils viennent. Et du coup, ils viennent en dépit de l'autre élément qui, au contraire, nous est très défavorable, qui sont les classements internationaux, qui envoient une image en général, sauf pour l'Angleterre, mais sur le continent majoritairement, une image qui n'est pas très positive des institutions de la recherche européenne dans les classements. On peut discuter de la pertinence des classements, c'est évident, mais l'image, elle est là. Hein, l'image, elle est là.
Les Pays-Bas et la Suède ne sont pas si mal classés que ça.
Je suis tout à fait d'accord, mais l'ensemble du continent européen, vous êtes d'accord? L'Allemagne s'en est quand même inquiétée, et c'est pas pour rien qu'elle a créé une initiative d'excellence.
Ça, on pourra en parler séparément.
Oui, mais c'est quand même une réaction à ce classement qui les a, comme Pisa. Le secondaire, traumatisés. Donc, si vous voulez, les classements envoient quand même une image qui n'était, sauf pour l'Angleterre, hein. Je parle de l'Angleterre, je parle pas de, 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 de l'ensemble Grande-Bretagne, mais de l'Angleterre, qui sort bien de ces classements. Les autres ne se sont pas toujours sentis très à l'aise avec ces classements, et la France en particulier. Donc je pense que dans ce panorama, l'élément qui amène quand même les gens à regarder vers l'Europe n'est sûrement pas les classements, qui ont un effet sur les universités, les établissements qui veulent réagir, ou les gouvernements qui veulent réagir, mais le processus de Bologne, en revanche, donne une impression positive, un sentiment qu'il y a une dynamique, qu'il y a un mouvement, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui amène l'attention des intervenants. Alors la force, personnellement, je pense qu'un des éléments qui a été très très important parce qu'il a permis de débloquer toute une série de questions, c'est le fait que justement ce n'est pas un ministre, ce n'est pas le projet du ministre qui vient d'être élu, qui est sorti d'une majorité, qui porte ce projet, c'est quelque chose qui est porté par un ensemble qui est beaucoup plus diffus, qui peut être beaucoup moins localisé, qui comprend des ministres de gauche, des ministres de droite, enfin qui n'est pas aussi marqué, et qui du coup permet de reposer des questions qui étaient complètement bloquées dans un grand nombre de pays. Et là, je ne parle pas que de la France, je parle d'un certain nombre de pays européens qui ne pouvaient plus discuter d'un certain nombre de questions tabous et qui ont pu les réouvrir dans un contexte, non pas où ils ont immédiatement décidé quelque chose, mais où ils ont pu rediscuter dans un contexte qui était plus large et où on faisait dialoguer des gens qui, alors je parle par exemple des droits d'inscription, des gens qui étaient favorables aux droits d'inscription, des gens qui étaient défavorables, mais on réouvrait la discussion qui sans ça était impossible à avoir. Donc je crois que ça c'est un élément qui donne cette force, c'est un élément parce que c'est un élément, disons, qui n'est pas propre à un ministre. Deuxièmement, l'implication des acteurs au plan européen et l'adhésion de ces acteurs au plan européen. Et là, l'implication des acteurs, moi je veux dire que c'est notamment les deux associations, l'association des universités d'une part, qui est partie prenante à toutes les discussions. Donc, bon, moi ayant été dans cette association de 2001 à 2005, j'ai suivi le processus de Bologne et je peux vous dire, et c'est vrai, que c'est pas une figuration. Et les étudiants, c'est la même chose. L'association qui s'appelait ESSIB, qui s'appelle maintenant ESSU des étudiants, est une réalité, et je vous promets qu'ils parlent aux ministres et qu'ils se font entendre. C'est pas simplement, on les met pas là pour regarder. Et je rappelle que dans le même appartiennent à l'ESSU, l'UNEF et la FAGE. Donc des entités qui, elles-mêmes, je suis absolument convaincu de ça, ont évolué sur l'Europe, parce qu'ils étaient dans cette association, et qu'il y avait dans cette association, qui est menée en général par des gens du Balkan, par des Nordiques, germaniques nordiques, ou des Anglais. Enfin, c'est cette Anglais-Pays-Bas. Enfin, si vous voulez, c'est cette fresque assez complexe dans laquelle ils sont emmenés et qui est dans laquelle les sujets d'abord sont traités au fond, ne sont pas du tout des associations étudiantes qui arrivent les mains dans les poches. En général, ils sont très souvent, et leur site, il n'y a qu'à consulter leur site, montrent la pertinence de leur analyse et surtout le sérieux de leur analyse. Ils sont quelquefois capables de vous faire taire universitaire ou de vous faire taire ministre en vous ramenant des faits précis et convaincants qui ont ébranlé. Et c'est comme ça qu'ils ont acquis cette force. Donc, moi, personnellement, je suis absolument convaincu, et ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens qui viennent de l'extérieur, nord-américains, canadiens, c'est que voir des ministres, quand tous les deux ans se déroule la discussion, dans laquelle il y a les ministres, bien entendu, entre eux, mais il y a aussi les représentants des étudiants et qui sont admis, pas simplement, encore une fois, pour faire la figuration, ou les représentants des universités, que ça dure depuis 10 ans, ça impressionne quand même les gens. Ça impressionne quand même les gens. C'est pas simplement une apparence. Donc ça, c'est un élément qui, à mon avis, a pesé dans la dynamique et qui fait que, bien, dans un certain nombre de pays, les étudiants étaient des relais du processus de Bologne, et non pas des éléments hostiles, ce qui, pour nous, a été souvent le cas. C'est un peu atténué avec. Et puis, il y a un autre élément qui est important, et ça frappe beaucoup les Nord-Américains, et notamment plus encore peut-être les Américains, États-Unis que les Canadiens, c'est le problème de la coopération. Parce que ce que vous dit un Américain, c'est « nous, la compétition, on connaît et on sait faire ». La coopération, ça, on a des choses à apprendre. On se rend bien compte qu'on a des problèmes. Et quand ils ont vu les diplômes conjoints, type master, type etc., ce sont des choses qui, maintenant, vous les voyez se développer, mais qui ne se développaient pas avant, et dont ils ont très bien compris que c'était des éléments nécessaires. Alors, en plus, dans le contexte post-2001, bon, enfin, dans un certain nombre de contextes pour les États-Unis, mais qui était un élément permettant d'attirer. Donc, cette coopération, qui est quand même la caractéristique du processus de Bologne, est importante. Alors, ce qui est acquis, donc, la dynamique, moi, je pense que Bologne a créé vraiment une dynamique, et pour les raisons que je viens de développer. Alors, bah, oui, je t'en prie.
Est-ce qu'on peut parler de la philosophie de Bologne, là? Parce que il y a quand même des critiques qui se sont faites jour et qui... Si les universités ne s'adaptent pas, on se passera d'elles. Tu reconnais la phrase, c'est Sir Douglas Haig qui fait cette phrase et qui a été repris par un dénommé Gibbon, si, je ne sais pas si je prononce bien, et qui dit maintenant la philosophie des universités va changer. Il y aura des modes M1. Le mode M1, c'est l'université traditionnelle. Les universitaires posent les questions et répondre à la question. Le mode M2, qui serait dans l'esprit de Bologne et qui serait le modèle que tu connais bien, le modèle anglo-saxon. Le modèle M2, c'est la société qui pose les questions et c'est l'université qui s'adapte et qui répond.
Bah, je pense que dans Bologne, c'est plus le deuxième, enfin, c'est plus le M2 que le M1, mais c'est là où on va retomber sur le problème, et c'est un sujet de fond, et c'est un danger, enfin, ou c'est un risque, ou c'est un problème, on peut l'appeler de différents noms, là, justement, de savoir, entre le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne, quel est le message qu'on envoie aux universités, et qu'est-ce qu'on veut faire des universités. Et là, il y a une opposition totale, hein. Mais il y a une opposition totale, en dépit, regardez le site de la Commission européenne, la Commission européenne, son discours, c'est un discours qui calme tout le monde en disant « tout ça est compatible ». On est en train de faire l'Europe universitaire, tout ça est compatible. Au fond, on marie l'Europe de la recherche avec l'Europe de... etc. La stratégie de Lisbonne, c'est la stratégie qui englobe le tout. Et tout ça, ce sont des briques qui s'ajoutent les unes aux autres et qui construisent la stratégie de Lisbonne. Et à mon avis, il y a une erreur totale. Hein, il y a une erreur totale. La discussion est complètement ouverte. Ce qui est très bien pour les universités et pour les universitaires. Parce que les universités et les universitaires, du coup, ont des marges de manœuvre s'ils veulent les prendre. Si effectivement ils veulent rester dans leur coin, ben ils resteront dans leur coin et on arbitrera pour eux. C'est pas la première fois en France qu'on préfère une décision ministérielle à une prise de responsabilité locale. Bon, moi je veux bien. Ça c'est chacun décide comme il veut. Ça m'est complètement égal. Mais je dirais que c'est ça qui est l'enjeu. Or, dans un paysage flou, il y a de la place pour des gens qui ont des stratégies. Dans un paysage où il y a des stratégies extrêmement fermes, cohérentes, etc., il y a beaucoup plus de difficultés à en sortir. Donc je crois qu'on est dans une situation qui me paraît, ça c'est une opinion personnelle, relativement floue, hein, pas totalement floue, mais relativement floue, et dans laquelle il y a donc des marges des degrés de liberté éventuellement à saisir. Mais pour les saisir, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de liaisons. Ça peut être des liaisons entre dans un espace genre presse, ça peut être des liaisons dans un espace national, ça peut être des liaisons internationales, ça peut être des liaisons... c'est un petit peu aux universités, aux universitaires de s'exprimer. Donc, sur ce qui est acquis actuellement, bon, et qui, à mon avis, a fait que vous avez un espace européen par rapport à la problématique de Bologne au départ, qui est de dire... Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu plus clair, vu de l'extérieur, et qui soit un peu plus compréhensible. Bon, il y a maintenant, avec beaucoup de différenciation encore, et beaucoup de, heureusement, de diversité, il y a quelque chose qui se ressemble davantage, puisqu'on a des termes souvent plus proches pour décrire cette première étape, ce cycle court, que nous appelons licence, que d'autres appellent bachelor, ou qui s'appelle baccalauréat dans d'autres pays, enfin, peu importe, mais disons, il y a quand même une première étape, qui montre bien qu'au terme de cette étape, en gros, on pose aux étudiants et on pose aux universités le problème de la construction des masters. C'est-à-dire que les étudiants, maintenant, leur grande mobilité, ils vont la faire après la licence, en se disant, est-ce que je reste au même endroit ou est-ce que je me déplace? Avant, me semble-t-il, dans nos disciplines, ça peut varier, mais c'était surtout après la maîtrise que se posait la question où allait-on faire son DEA, etc. Et quelquefois, quand on sentait que ça pouvait dépendre de l'endroit où on avait fait sa maîtrise, on allait avant. Mais disons que c'était la stratégie. Maintenant, c'est très clair que c'est après la licence que se pose la question où va-t-on faire son master. Et la compétition, visiblement, s'organise autour des masters. Et puis, il y a le doctorat. Et là, on va revenir sur le doctorat. Je pense que là, il y a eu aussi... C'est un deuxième élément tout à fait... Enfin, qui, dans lequel on prend position quand même par rapport à une autre forme d'organisation du postgraduate, enfin des études après le niveau licence, qui est de séparer le master du doctorat. Contrairement aux écoles, aux graduate school nord-américaines. Donc, si vous voulez, par rapport à la structure en deux, on est sur une structure en trois. Bon, cette structure en trois, elle a ses caractéristiques, et elle repose notamment sur un doctorat dans lequel les affirmations du processus de Bologne, à mon avis, ce sont des affirmations fortes, consistent à dire, un, que le doctorat, c'est la première étape de la profession de chercheur. C'est plus un étudiant, c'est clairement la première étape du chercheur. Bon, quelque chose de sidérant, mais il y a un accord là-dessus sur les points de vue européens. La deuxième chose, c'est que le doctorat, c'est un élément, et c'est banal aussi, mais enfin, peut-être dans certains pays, ça n'est pas tant que ça, c'est un élément de la stratégie scientifique de l'établissement, que de savoir où on a des écoles, comment on conçoit ses doctorats, comment on conçoit ses écoles doctorales. Et le troisième point qui est là mené, entre autres, par l'EUA et avec un collège doctoral européen, qui met quand même l'accent sur un point qui fait mal aux universitaires, qui consiste à dire, c'est pas parce qu'on est professeur qu'on est capable d'encadrer. C'est-à-dire que l'encadrement, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir aussi des aptitudes, une déontologie, un certain nombre de choses, qui sont pas nécessairement toujours courantes. C'est pas un processus de relation individuelle. C'est quelque chose qui est, dans une école doctorale, collectivement menée, et menée avec un certain état d'esprit, et Imperial College, qui est entre autres un des éléments qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a fait progresser les doctorats européens dans cette direction, avec un accord des universitaires, consiste à dire, il y a une formation, hein. Pour encadrer, vous passez une formation. On n'encadre pas comme ça, c'est pas parce qu'on a le titre de professeur qui vous donne, effectivement, la légitimité pour le faire, que par ailleurs on peut avoir des qualités ou des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement tout à fait suffisantes.
Que cette notion soit un peu plus répandue dans nos universités.
Oui, mais c'est justement, enfin si vous voulez, là il y a l'EUA a mis en place un collège doctoral européen, j'en fais la publicité, qui se réunit à Lausanne en mois de juin prochain, c'est la deuxième session, qui a comme président un Français, ce qui mérite aussi quand même qu'on s'y intéresse, c'est Jean Chambaz qui est vice-président de Paris 6, c'est pas non plus de n'importe quelle université, la vice-présidente c'est Imperial College, c'est Marguerite d'Imperial College. Donc on n'est pas en train de jouer en deuxième catégorie des gens, et de quoi s'agit-il? D'échanger des bonnes pratiques, et le séminaire qui avait lieu en janvier portait justement sur le problème de la supervision, enfin de l'encadrement et de la formation à l'encadrement. Et du coup, bien sûr, et de l'évaluation. Hein, de l'évaluation. Donc, troisième...
En Allemagne, ce serait anticonstitutionnel. Je vous parie ce que vous voulez, que la Cour suprême descende le premier qui dit qu'un professeur n'a pas le droit d'encadrer.
Mais je sais que le R professeur doctor, je connais les caractéristiques du R professeur doctor, mais elles peuvent être dépassées. Il peut être dans un monde...
En changeant la Constitution, à la majorité des deux tiers.
Attendez. Le professeur est libre.
C'est pas demain la veille.
Non, mais les professeurs sont libres.
Et en Autriche, j'en parle pas.
Attendez. D'abord, en Autriche, je suis moins sûr que ça. Je suis moins sûr que ça parce que le président de l'EUA est quand même le recteur de Vienne, et donc il a pu jouer aussi un certain rôle dans l'élément. Et d'autre part, n'oubliez pas que, bien sûr, il peut y avoir des processus constitutionnels comme en France. Hein, on connaît les décisions constitutionnelles qui concernent les professeurs. Mais il peut très bien y avoir des professeurs qui, d'eux-mêmes, se disent, j'ai besoin de cette formation.
Ah, ça, bien sûr.
Donc, par conséquent, le processus de Bologne n'est pas un processus qui impose. C'est un processus qui doit amener l'adhésion. Si les gens ne veulent pas adhérer, ils n'adhèrent pas. On n'impose pas aux universités d'adhérer. Si l'université veut...
Alors là, en France, je regrette. On impose aux universitaires d'adhérer. Et en Allemagne, on leur fait des contraintes financières telles qu'on leur impose d'adhérer. Vous demandez à n'importe quel collègue allemand ce qu'il pense de Bologne, et vous en aurez des nouvelles. Et il vous dira, on le fait pourquoi? Tout simplement parce que les universités sont rémunérées, pas suivant le nombre d'étudiants entrant, mais suivant le nombre d'étudiants sortant. Regardez le débat en Nordrhein-Westfalen. L'adhésion est volontaire, alors là...
L'adhésion est volontaire. Si vous voulez, à partir du moment où on vous met un système financier, quel qu'il soit, y compris dans un projet de l'ANR, vous y allez ou vous y allez pas.
Heureusement, la DFK n'est pas encore là.
Non, mais vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce qu'on vous met un projet avec un mode de financement que vous êtes tenu d'y aller.
Non,
Donc, vous avez un degré de liberté. Il faut prendre ses responsabilités. Ou on a besoin de moyens de financement. On a besoin de moyens de financement. Il faut qu'on les trouve. Ou on n'en a pas besoin. Et à ce moment-là, on a des degrés de liberté. Mais si on a besoin si on a effectivement la recherche de moyens de financement, et si l'État définit une certaine politique avec des moyens qui sont conditionnels, il faut se poser la question, est-ce qu'on adopte les conditions ou pas?
Je vous accorde, si l'État veut tuer les universités, personne ne va l'en empêcher. Ça.
Non, mais c'est
d'ailleurs, le monde ne s'arrêtera pas de tourner s'il n'y a pas d'université en France ou en Allemagne. D'accord. On ne peut pas aller contre l'État.
Est-ce que l'université française va bien? La réponse est non. Est-ce qu'on a des chances d'améliorer ses qualités en adhérant à un système type Bologne, malgré ses imperfections, malgré il y aura toujours des imperfections? La réponse est vraisemblablement oui.
Je connais aucun collègue dans n'importe quelle discipline, il n'y a qu'à lire la Frankfurter Allgemeine Zeitung ou n'importe quoi, personne ne dit que Bologne a été une amélioration. Alors peut-être les Américains de loin. Et encore, ils prennent même pas nos gens avec le bachelor dans leur programme.
C'est pas vrai, justement. C'est une des choses qui a un petit peu évolué. Hein. Ils se sont avant, ils ne prenaient que les bachelors anglais, puisqu'ils estimaient que c'était les seuls endroits. Depuis que le niveau s'est uniformisé dans un contexte où il y a post-2001 hein, aussi, où ils sont quand même à la recherche d'étudiants, et ils n'ont pas tout à fait la certitude que tous les étudiants qui avant venaient spontanément viennent. Ils ont ouvert, et il y a une déclaration de Graduate School américaine, donc de l'Association des Graduate School américaines, qui justement dit que dorénavant, les universités au niveau des Graduate School acceptent de considérer la licence, ce qui avant ils ne faisaient pas. Donc si vous voulez, Bologne...
L'espagnol a 4 ans, mais les licences à 3 ans, ils ne veulent pas en entendre
si,
parler.
Si. C'était la stratégie du ministre allemand. Hein. C'était la stratégie du ministre allemand que rappelle Claude Allègre, qui a dit, ce n'est pas non, au moment où il discutait de la Sorbonne.
Pour peu qu'il y ait un ministre allemand dans 16 Bundesländer.
Oui, c'était à ce moment-là le ministre de la Recherche. Oh, pardon, excusez-moi, c'est moi qui touche la carotte. C'était le ministre de la Recherche, donc c'était au niveau du Bund. D'accord?
Oui, ministre de la Recherche.
À l'époque, c'était
oui.
Le
ministre.
Oui, mais c'était de
Bologne, c'est l'enseignement. On vient de dire que l'espace de la recherche est l'enseignement.
Oui, mais comme vous le saviez, Claude Allègre, c'est un problème à ce moment-là, en la Sorbonne, c'est un problème gouvernemental que de savoir avec qui on s'allie.
Ah oui, non, mais la Sorbonne, c'est loin, ça fait longtemps.
C'est juste avant.
Oui, un an. Ça fait 10 ans.
Oui, mais c'était juste l'année qui précède Bologne. Donc simplement, c'est simplement pour dire ça, Allègre rappelle qu'un des éléments de discussion, c'est qu'il ne savait pas s'il fallait avoir une logique de bachelor au bout de 3 ou 4 ans, le diplôme court au bout de 3 ou 4 ans. Et c'est le ministre allemand qui a dit, compte tenu de nos études secondaires comparées aux études américaines secondaires, du second degré, il est logique qu'on défende que 3 ans d'études supérieures en Europe correspondent à ce que l'Américain reçoit comme bachelor, lui, quelquefois, dans un laps de temps qui peut être un peu plus important.
Philippe, ce que je propose...
Le débat est trop technique.
Non, ce que je propose, c'est qu'on laisse M. Éric Froment terminer la présentation.
Et puis on discute.
Et après, on discute.
D'accord. Donc je vais accélérer un petit peu. Je pense qu'il y a un autre domaine, le troisième domaine, ce qui me paraît aussi avoir donner une caractéristique, c'est les règles qui ont été adoptées en matière d'évaluation ou d'assurance qualité, puisque les termes varient, ou d'accréditation selon les pays, et le fait que vous avez un registre européen des agences qui respecte des règles qui ont été arrêtées en commun à Bergen en 2005 et qui maintenant font l'objet d'une application en principe par les agences d'évaluation qui opèrent en Europe. Alors, ce qui est quand même là à noter aussi, parce que c'est quand même une caractéristique qui frappe les gens, c'est que le registre, les personnes qui ont été désignées pour faire partie de cette entité qui apprécie le travail des agences d'évaluation, donc en France, à l'heure actuelle de l'ARS, du QA, des agences d'accréditation allemandes, qu'elles soient spécialisées ou au niveau de la méta-agence allemande, eh bien, ce sont des représentants qui sont nommés par les étudiants, deux représentants par les étudiants, deux représentants par les agences, deux représentants par l'Association européenne des universités et deux représentants par l'Association des établissements autres qu'universitaires. Donc, les ministres ont accepté que ce soit des personnes nommées par ces quatre entités qui rendent compte de la compatibilité ou de la non-compatibilité de ce qui est fait, du respect ou non du respect de ces règles. Dans un domaine qui est quand même le domaine dans lequel, a priori, les ministres qui sont intéressés par la qualité de leur système auraient pu être vigilants et demander à ce que ce soit des représentants ministériels. Donc ça montre quand même qu'il y a, il y a un état d'esprit qui est un peu différent de ce qu'on imagine dans une Europe continentale. Je ne parle pas de l'Europe des îles britanniques, mais dans l'Europe continentale, c'est quand même une tradition des ministères qui sont régnants. Donc voilà, c'est un troisième élément qui frappe quand même et qui fait qu'il y a un espace européen dans la mesure où il y a un registre dorénavant européen qui démarque. Alors, les débats et les risques. Débat en matière de recherche. Je crois qu'il y a un grand débat et qu'on a ouvert indirectement, là tout à l'heure, visiblement, qui est de savoir, quand on veut faire évoluer un système, si on s'appuie davantage sur les scientifiques et les disciplines, donc les disciplines, les laboratoires, les chercheurs, ou si on s'appuie sur les établissements. Et ça, c'est un débat éternel, c'est-à-dire de savoir si ce qui va faire bouger, ce qui est important, sachant que vous avez une autorité ministérielle qui est incapable de gérer la totalité de ce qui se passe, il faut un relais. Le relais, on peut le choisir en disant ce sont les établissements fondamentalement qui est le relais, ou on peut dire ce sont les relais, ce doit être des disciplines, ce sont des responsables scientifiques, les grands laboratoires, les grandes disciplines. Et là, il y a un débat qui nous traverse, qui est celui du Conseil européen de la recherche qui indiscutablement valorise d'une certaine façon. L'Allemagne, que vous connaissez bien, qui a valorisé dans l'initiative d'excellence indiscutablement le passage par les laboratoires, par à la fois les écoles les laboratoires de recherche et les formations doctorales. Donc, il y a des conceptions différentes. Deuxième débat qui existe et qui, là, nous ramène à Lisbonne et à des discussions qui sont autour de la stratégie de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne, le mot qui est prononcé le plus souvent, c'est excellence. Ce n'est pas un mot de Bologne. Bologne, ce n'est pas un mot qui est le mot d'excellence. Ça serait les types d'excellence, les formes d'excellence, mais il n'y a pas l'excellence. La stratégie de Lisbonne, c'est, puisque c'est une Europe de la connaissance, il faut 10 grandes universités, c'est ça en gros le message, comme aux États-Unis, qui sont dans l'espace européen, les pôles sur lesquels on s'appuie, qui sont les grandes universités de recherche, et qui vont devoir être les points stratégiques. Le reste a moins d'importance. Il faut qu'on ait ces 10 grandes universités, ou c'est 10. Et donc, ça, c'est une concentration de l'excellence. Et vous avez, au contraire, toute une logique qui consiste à dire, ce qui est important, c'est que dans le tissu européen, ce qui le différencie du tissu nord-américain, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on continue à vouloir articuler enseignement-recherche, même si on sait bien que ce ne sont pas des gens qui vont produire les nouvelles connaissances. Ce n'est pas les lieux de production de nouvelles connaissances, mais c'est des lieux où on suit l'évolution des connaissances et où on est capable, dans son environnement régional, auprès des PME, etc., de diffuser l'évolution des connaissances, à défaut de produire ces nouvelles connaissances. Mais il faut qu'il y ait cet élément. Et dans une société où on prétend que la connaissance évolue très rapidement et qu'il faut tenir compte de cette connaissance, que c'est la base de la compétitivité, ben, il est évident qu'il est important que vous ayez des gens dans l'espace le plus large, qui suivent ces éléments, même si on est bien d'accord, ce ne sont pas des grandes universités de recherche, ce ne sont pas des grands laboratoires de recherche, mais ce sont quand même des gens qui, un, suivent, et deux, enseignent différemment. On ne me fera jamais croire qu'un enseignant qui a fait de la recherche enseigne de la même façon qu'un enseignant qui n'a pas fait de la recherche. Ça, ce n'est pas vrai. Et par conséquent, il y a une éducation, il y a une façon de former des étudiants au niveau licence, qui, s'ils ne sont pas formés comme ça, ne permettront pas aux grandes universités qui, en fait, ne s'occupent pas de ça, s'occupent uniquement d'aller chercher et de faire venir à eux des gens qui ont été bien formés ou qui ont été sensibilisés à la recherche, qui ont eu l'envie de faire de la recherche, dans des lieux où il fallait qu'ils rencontrent des gens qui avaient connu la recherche, qui pourraient leur en parler avec un peu d'enthousiasme, et qui ne soient pas simplement des gens qui avaient été, il y a longtemps, en contact. Donc ça, c'est un élément, c'est un débat qui, à mon avis, est important et pas tranché. En matière de formation, vous avez un grand débat sur les droits d'inscription. Grand débat, avec des positions que vous connaissez. Des lieux, y compris, sur le cas de l'Allemagne, où vous avez eu des va-et-vient dans certains lands. Il y a le problème de l'accès à l'enseignement supérieur, où là aussi, la sélection ou la non-sélection sont des débats qui partagent un certain nombre de pays, et qui partagent quelquefois aussi les établissements dans certains pays. Et vous avez la politique des langues. Parce que la politique des langues, il y a deux doctrines qu'on connaît bien. Il y a celle qui considère que l'anglais est l'élément indispensable et suffisant, et puis ceux qui considèrent que si on veut une Europe qui soit digne de ce nom et qui respecte ses traditions, eh bien, c'est pas sur deux langues qu'il faut bâtir une Europe, la langue nationale et l'anglais, mais c'est sur au moins trois langues, au minimum, et très diverses, et pratiquées, et insister sur cet élément qui, à mon avis, est un élément aussi qui va dans le sens de l'emploi des étudiants. Tous les étudiants ne pourront pas avoir des carrières internationales simplement parlant anglais. Ils n'auront pas la mobilité permise. C'est évident qu'on ne fait pas de la publicité en Pologne en parlant l'anglais, hein, c'est clair, ou le français. Il faut probablement avoir quand même une connaissance de la culture polonaise et des mots polonais, de l'expression polonaise, si on veut faire ce genre de travail. De la même façon que si on encadre des ouvriers dans n'importe quel domaine, il vaut mieux connaître leur langue que de les voir discuter dans votre dos, dans leur langue, sans comprendre. Débat coopération-compétition, bien là, on retrouve tout à fait le problème de la stratégie de Lisbonne qui nous emmène dans une logique, certes, de compétition, c'est-à-dire qui nous amène dans une logique où, bah, au fond, si vous regardez bien ce qu'est la stratégie de Lisbonne, et ça se retrouve sur d'autres thèmes qui sont proches des nôtres, c'est l'idée que il faut être le plus compétitif possible. Pour ça, nous dit la Commission, il est opportun d'avoir des liens avec l'ensemble des industries, où qu'elles soient. Donc, vous êtes un laboratoire français, allemand, anglais, etc. Ce qui est important, c'est que vous tissiez des liens avec n'importe quelle industrie, que vous obteniez des fonds par la compétition en montrant vos compétences, mais que cette industrie soit chinoise, japonaise, nord-américaine, européenne, c'est pareil. Ce qui, évidemment, vous amène quand même à vous poser la question, c'est très bien, mais est-ce qu'on est là pour stimuler la compétitivité des Américains et faire en sorte que les connaissances qui sont obtenues par des subventions européennes soient destinées à aider des entreprises américaines à se développer ou des entreprises chinoises, etc. Donc il y a toute une série de questions qui sont posées. Erasmus Mundus est un exemple. Erasmus Mundus vous incite et nous incite à faire venir des gens et à former des gens avec des subventions importantes qui ne sont pas nécessairement issus d'Europe et qui, je ne suis pas pour une forteresse européenne, mais qui vous montrent qu'il y a débat évident entre la formation que vous allez faire avec des établissements éventuellement hors de l'Union européenne, qui vous amène à des réseaux, et qui peut vous amener à cette situation paradoxale, c'est qu'une université allemande ou anglaise va coopérer davantage avec une université chinoise qu'elle ne va coopérer qu'une université d'un autre pays européen. Pour des raisons, parce que c'est d'une certaine façon plus valorisant d'être lié à une université australienne, chinoise ou nord-américaine que d'être lié entre deux universités européennes entre elles, sans parler des problèmes linguistiques, qui sont plus facilement résolus par l'anglais dans cet espace mondial qu'ils ne le sont dans l'espace européen où il faut. Donc on a des questions qui s'emboîtent et qui se télescopent, et les délocalisations, on nous incite à des délocalisations, c'est-à-dire hors d'Europe, qui consiste à former bien des cadres. Alors je prends l'exemple de la Chine pour que ça soit clair. C'est clair qu'il était important qu'il y ait des délocalisations en Chine, mais il faut bien comprendre qu'on est en train de former des concurrents redoutables et qui ont une puissance de frappe dont on comprendra bientôt ce qu'elle est dans un certain temps. Donc on a, à mon avis, des problèmes pas clairs du tout, sur lesquels je ne reproche pas qu'ils ne soient pas clairs. Je dis simplement, ce sont des problèmes, ce sont des débats, ce sont des risques, c'est ouvert. La France dans cette construction... Moi, je dis qu'il n'y a pas de retard particulier dans la construction de Bologne, hein, que la logique des trois cycles, je suis désolé de le dire, c'est quand même, en France, on a une doctrine, c'est-à-dire qu'on a construit des masters en disant que les masters devaient reposer sur des équipes de recherche. Ça, c'est pas la réalité ailleurs. Hein. Si vous regardez la réalité anglaise, c'est que c'est des masters qui sont enseignés par des gens qui sont très souvent non docteurs. Ce qui, pour nous, n'est pas un élément... Enfin, il y a des réalités qu'il faut bien mesurer. Donc, on n'a pas, à mon avis, à rougir. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je dis simplement on a une logique. On a des écoles doctorales. S'il y a une logique, on a poussé à certaines constructions, reconstructions. Il y a une logique du master. Il y a une logique. Il y a cette politique contractuelle qui, quand même, est un mode qui pourrait bien fonctionner. Je ne dis pas qu'il fonctionne bien, mais qui pourrait bien fonctionner entre le ministère et les établissements. Il y a une agence unique d'évaluation qui a sa vertu parce qu'elle s'occupe à la fois de la formation, de la recherche et des établissements. Et il y a une professionnalisation des formations, contrairement à ce que dit beaucoup, très souvent à tort des gens extérieurs au système français. On a un des systèmes qui a peut-être le plus grand souci. Je parle du système universitaire, hein. Je parle de l'université, je ne parle pas par rapport à l'université allemande que vous connaissez bien, on a un souci indiscutable de la professionnalisation qui est plus poussé que dans d'autres lieux. Faiblesse, l'évaluation, on n'a pas de culture de l'évaluation, et on a une crainte ou une hostilité parce que probablement on vient d'un monde de l'inspection, ou d'une culture de l'inspection, qui effectivement n'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas de culture d'autonomie. Et sur l'internationalisation, ce qu'on appelle l'internationalisation des établissements, je suis désolé de le dire, le plus souvent c'est ou le fait de quelques collègues, ou c'est le fait d'étudiants étrangers qui viennent chez vous. Mais ce n'est pas le fait qu'on soit allé nécessairement, qu'on ait adapté nos cursus à des étudiants étrangers, ou qu'on ait eu une logique de ce type-là. Mais l'implication trop limitée, vous l'avez rappelé, dans les processus européens, bon, moi je l'ai constaté sur les autorités ministérielles, il n'y a pas de doctrine ou de volonté durable. Il y a eu, on l'a vu très bien, la présidence française, bien sûr, on s'en est occupé. Ben, je vous demande de savoir ce qu'il en reste maintenant en janvier, en février, si on en parle encore beaucoup. Au niveau des établissements, je reste quand même persuadé que très trop souvent, c'est, alors quelques collègues, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est quand même pas, ça ne pénètre pas très en profondeur. Conclusion. Je crois qu'il y a un vrai problème qui nous est rappelé par les dimensions géographiques de départ par les cartes. Quelle Europe veut-on construire? Est-ce que c'est l'Union européenne que l'on veut et une Europe politique, c'est-à-dire une Europe qui ait une dimension politique? Auquel cas, et c'est la deuxième question, moi je vois la réponse, les universités ont un rôle à jouer dans une construction politique, elles ont quand même à former des citoyens européens. Elles ont donc une logique à ce moment-là, qui est une logique héritée du 19e, qui est une logique très classique, qui est de contribuer à cette construction en ayant dans leur formation, qui n'est pas simplement une formation scientifique, mais qui est une formation au sens large de citoyens, de prendre en compte cette dimension-là. Ça, c'est une construction. Mais vous voyez que entre l'Europe de Bologne et l'Europe des 27, on est quand même, quand vous parlez de la Russie dedans, Bologne, et qu'on passe... Bon, on a un problème. Et puis, il y a une autre Europe qui, à mon avis, celle qui se dessine ou qui est la plus floue, qui est l'Europe de la stratégie de Lisbonne, qui n'est pas très claire, qui est, vous le voyez, à la fois une émanation des 27, mais qui prend l'Europe de la recherche à 31 avec, je ne sais pas, c'est pas une attaque du tout, mais qui comprend y compris des éléments vraiment très extra-européens comme Israël, qui sont des éléments très... qui nous amènent dans des mondes différents, qui ne prend pas en compte la Russie, enfin, qui nous amène dans des mondes très particuliers et dans lequel le rôle des universités, quel est-il? Sûrement de faire de la recherche, sûrement de contribuer à l'évolution des connaissances, sûrement, mais qui, à mon avis, pose un problème aux universités de savoir si c'est ça qui les intéresse, si c'est elles se sentent bien dans ce rôle, ou si, et moi je le comprends très bien, elles estiment que l'espace qui est le plus naturel pour elles, c'est l'espace mondial, à ce moment-là, parce qu'un universitaire, je suis désolé, mais je terminerai par ça, l'Europe, ça n'a aucun sens pour lui. Sauf s'il y a une Europe politique. L'universitaire, il est intéressé par tout collègue qui travaille sur une discipline qui est la sienne, ou qu'il soit dans le monde. Lui dire, on va restreindre ça à l'Europe, lui, ça veut rien dire. Sauf si vous avez un message politique, on est dans une construction, je suis désolé, mais l'université n'étant pas indépendante, l'autonomie, c'est pas l'indépendance, le professeur autonome, il n'est pas indépendant non plus, il est citoyen d'un certain pays, et il se doit de respecter les élections et les votes qui sont faits dans... Et si on décide de construire une Europe politique, bah, ça peut lui plaire, il peut s'engager plus ou moins, c'est des degrés de liberté, mais il y a quand même une responsabilité. Donc on est face à ces types de problèmes, et dans lesquels je pense que les universités, dans une Europe qui est floue, et on revient sur le problème des degrés de liberté... Bon, ont des choses à dire et à se prononcer. Il ne faut pas laisser passer les choses comme ça en se disant ça ne nous concerne pas, il n'y a pas d'image claire. Voilà. Merci. Voilà, ben maintenant.
Il y a des discussions. Qui souhaite intervenir? Philippe, pas trop longtemps. Pas
trop longtemps. Bon, ben, j'ai déjà dit mon scepticisme sur la chose, qui est une déception, parce que bon. J'avais cru que ça allait marcher. Mais bon, j'en reviens à l'université traditionnelle, qui est pour moi l'université de Wilhelm von Humboldt, hein? Qui est quand même, à part la France et quelques pays, le modèle universitaire auquel s'est tenu le monde entier, et surtout celui qui a eu du succès, et en particulier en Amérique. C'est l'unité de l'enseignement et de la recherche. Inséparable. La recherche... doit se faire, enfin, en principe, il ne doit pas y avoir de chercheurs qui ne fassent pas d'enseignement et d'enseignants qui ne fassent pas de recherche. C'est l'idée de Humboldt. Bon, j'élaborerai pas sur les succès que ça a eu, en particulier les 50 dernières années aux États-Unis. Et bon, on clique un peu sur le web, on voit que les meilleures universités japonaises, que ce soit Tokyo, Kyoto ou je ne sais pas quoi, se réfèrent explicitement, en citant dans toutes lettres Wilhelm von Humboldt. Et ça, ce n'est pas le modèle français, ou le modèle français, c'est que l'université, je reparle ce fameux décret de Napoléon, où il y a une université, et Bordeaux, Poitiers et compagnie, ce sont des succursales. On n'a même pas le droit de faire nos propres diplômes. Hein. On décerne un diplôme national, donc on est un petit rouage. Ce que je vois dans Bologne, vous avez dit la France a de l'influence dans ce processus, je dis malheureusement. Malheureusement. Elle a infecté le système européen de ses notions centralisatrices. Bon, ils n'ont pas encore vendu le CNRS aux Allemands, heureusement.
Max Planck existe déjà. Hein.
Max Planck, c'est pas le CNRS. Je sors de Max Planck, alors là, je peux vous parler une heure sur les différences.
Enfin, c'est pas non plus articulé avec l'université. Hein.
Philippe, tu vas pas nous refaire la conférence que tu as fait sur le mérite d'Humboldt. Hein
mais on peut très bien dire on fait quelque chose qui s'appellera université et qui ne sera pas humboldtienne. Il y a aux États-Unis l'université du révérend Forwell, et l'université du révérend machin, et l'université McDonald, et personne n'aura l'idée de confondre ça avec Stanford et MIT. Donc, il faut s'entendre sur ce que doit être l'université.
Mais le modèle de Bologne n'oblige pas une université à souscrire à ce modèle-là.
Ah ben, en France, on a le LMD, on ne nous a pas demandé notre avis, je regrette.
Ça ne résume pas Bologne, hein.
Non, ça ne résume pas Bologne, mais c'en est
C'est une partie.
C'est la partie essentielle.
Oui, mais avec l'autonomie des universités, si c'est une autonomie.
Mais tu crois que si Bordeaux devient autonome, ils vont revenir sur le LMD, ils vont dire non, ça ne nous plaît pas.
Non, mais si tu gardes le LMD, hein, il faut une partie centralisatrice quand même, une organisation.
Bon, je ne nommerai pas l'université,
oui.
Mais je sais pertinemment qu'une grande université allemande cherchent pour l'instant, qui ont été parmi les premiers à adopter Bologne, contre beaucoup de résistance, qui sont en train de faire machine arrière. Et dans 2 ans, ils n'auront plus Bologne. Je ne dirais pas quelle université c'est. Une très grande, à l'ouest.
À l'ouest. Oui. Non, mais le LMD, il est accepté, mais ça ne résume pas Bologne. Hein. C'est la démarche qui consiste, une université qui est autonome, à souscrire globalement à un programme européen, en misant sur le fait que ce n'est pas en restant purement franco-français et bordelais, hein, qu'on va atteindre l'excellence.
Mais ce n'est pas avec Bologne qu'on atteindra l'excellence non plus, au contraire.
Peut-être.
On en sera plus éloigné qu'avant, c'est ça mon problème. Et pour l'insertion professionnelle des étudiants, je pense que le pourcentage, je parle pour mes disciplines, physique, chimie, etc., le pourcentage de cadres industriels sortis de l'industrie, dans l'industrie allemande, en particulier chimique, ou mettons les gros chimistes helvéto-germano, etc., ce qu'ils sont maintenant, est très très nettement supérieur, mais d'ordre de grandeur supérieur, au nombre de cadres dirigeants que l'université française fournit aux industries françaises équivalentes. Parce que nous avons, et vous n'en avez pas parlé, nos magnifiques et grandes écoles nationales et supérieures.
Oui, mais justement, une des vertus de Bologne, et vous ne pouvez pas dire le contraire, c'est qu'elle a remis en selle les universités françaises, qui autrement, dans un système, si on restait dans l'espace français, ne serait sûrement pas en selle. La discussion actuellement montre, et elle gêne beaucoup les grandes écoles. Vous savez, les grandes écoles sont gênées par Bologne. Elles ont été gênées par la structure de Bologne. Les masters leur ont posé des problèmes. C'est quand même...
D'ailleurs, ils ne le font pas. Enfin,
Ils en ont bien besoin.
Oui,
ils sortent parce qu'ils ont des masters ES et que personne ne leur fait la chasse, ce qu'on devrait faire.
Et ils viennent à l'université, on leur fait un cours à la noix et on leur donne le master de l'université.
Oui, mais ça, c'est un autre... Ça, alors, chacun fait ce qu'il...
C'est
des responsabilités de chacun. Mais ce que je crois, c'est que les grandes écoles ont été mises en danger par le processus de Bologne. Et si vous voulez, si elle se regroupe actuellement, ou s'il y a quand même des velléités de regroupement qu'on n'aurait jamais imaginées dans l'espace français, compte tenu des traditions, ben c'est en partie aussi par la déstabilisation qu'a opéré Bologne.
Oui, jusqu'à maintenant, elles ont augmenté leurs effectifs.
Hein. Non, qui a publié un petit livre dont le titre est quand même assez provocateur. Hein. Faut-il supprimer les grandes écoles?
Mais tout le monde répond oui, mais personne ne le fait.
C'est là où les universitaires aussi se doivent quelquefois de comprendre dans un débat. Enfin, moi, je suis vraiment pas... Je ne défends pas la majorité actuelle. Mais ce que je remarque, c'est que c'est la première fois qu'on a un ministre ou une ministre dont l'essentiel du propos est centré sur les universités, bien qu'issues des grandes écoles, et qui, lorsqu'elle l'a dit plusieurs fois, considère que c'est pas le maillon central, mais ne sont pas les grandes écoles, mais les universités. On n'a jamais eu un discours comme ça. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que vous avez eu, tant du point de vue de la CPU, l'équipe dirigeante, je le dis clairement, qui en décembre a envoyé une lettre au président de la République par-dessus le dos de la ministre, n'a, à mon avis, pas joué un rôle très très intelligent politiquement.
Oui.
Parce qu'à mon avis, il déstabilise quelqu'un qui... On verra la suite. Moi, je prends le pari avec qui voudra. Je pense que le prochain ministre, quel qu'il soit, sera un défenseur des grandes écoles. Et que le train aura passé. Tant pis pour nous.
Je pense qu'on voit les lenteurs.
Tant pis pour nous. Mais en tant qu'universitaire, et moi, je suis
entièrement d'accord, tant pis pour nous.
Je pense qu'actuellement, il faudrait qu'on fasse attention au discours qu'on tient, dans la mesure où je crains qu'on n'ait pas, encore une fois, une situation dans laquelle on a mis autant l'accent sur l'université. Alors, on peut en discuter. C'est peut-être mal fait. C'est peut-être... Moi, croyez pas que je sois politiquement engagé de ce côté-là. C'est pas mon problème. Mais je dis simplement, objectivement, qu'il y a une situation qui me paraît extraordinaire, au sens du terme, extraordinaire. Et que je souhaite qu'une chose par rapport à la discussion qu'on a actuellement, grandes écoles, universités, c'est qu'on revalorise les universités françaises, hein, je parle dans le cas de la France, parce que je crois que, effectivement, tant du point de vue des effectifs, que du point de vue de la valeur ajoutée, et la notion de valeur ajoutée est une notion fondamentale, c'est-à-dire celle qui prend en compte la qualité des étudiants au départ et la qualité des étudiants à l'arrivée, je pense que ces éléments sont en faveur des universités. Et le processus qui consiste à prendre de bons étudiants et à les rendre de bons étudiants à la fin, ça c'est un processus qu'on a tous su faire. Les DESS et les DEA, on a tous su, en sélectionnant, ou les MST, ou tout ce que vous voudrez, ou les magistères, enfin, on a tout un exemple de processus où, en sélectionnant les étudiants, effectivement, quand vous triez et que vous prenez que la crème, ben vous sortez la crème aussi. Bon, on sait tous faire. Le problème, c'est pas ça, notre boulot qu'on a mené en tant qu'universitaire. On est tous bien placés, je pense, pour le savoir. Ça a été de prendre des étudiants qui étaient quelquefois sortis de bac très variés, qui étaient de milieux professionnels, de milieux socio-professionnels très différents et peu préparés à des études supérieures faiblement encadrées, et dont on est arrivé, c'est vrai, quelquefois, à ne les faire sortir qu'au niveau de la licence. Mais c'était quand même une valeur ajoutée que d'autres ne faisaient pas. Et quand on voit des grandes écoles qui se glorifient d'avoir pris 5 étudiants,
on en revient au débat. Est-ce la fonction de l'université? Alors, ce que vous dites, il aurait fallu créer des Fachhochschulen dignes de ce nom. Vous avez parlé des Fachhochschulen.
Je pense que non, mais vous êtes d'accord que
une usine à gaz.
Le terme université peut recouvrir et ce que dit Bologne, on est là-dessus. Il y a une réalité qui peut être très très différente d'une université à l'autre. Je pense que, quand je disais il y a des universités d'excellence de la recherche, tout le monde n'est pas là. Néanmoins, les Fachhochschulen ont suivi cette évolution. Ils se sont menés, vous le savez sûrement, aussi bien que moi, ou bien mieux que moi, on se sont orientés vers la recherche aussi maintenant.
Oui, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale. Mais
peu importe, je dirais que, moi, je pense que c'est quand même important qu'il y ait des gens qui enseignent, que des collègues qui enseignent, et qu'il y ait eu une formation de chercheurs. Je pense qu'on ne donne pas les mêmes structure de pensée aux étudiants. Et on ne leur donne pas la même adaptabilité à une société qui évolue rapidement.
La plupart des professeurs de Fachhochschulen ont une habilitation. Hein,
ça... Non, mais je parle d'une façon générale en disant seulement chercheurs, hein, que c'est important, justement.
Juste, je voulais dire, je souscris à ce que tu dis, et d'ailleurs, je ne comprends pas très bien le discours de Philippe, puisque je le connais suffisamment bien pour savoir qu'il est opposé aux grandes écoles, dans l'esprit, et aussi à l'institution CNRS. Et s'il me semble que un processus a permis, c'est ce que tu viens de dire, de remettre les universités en France au centre du débat et je souscris à ce que tu dis aussi, grâce en particulier à la dernière ministre, à ce, il faut dire ce qui est, eh bien, tu devrais dire que ça va dans le bon sens. Alors certes, l'application du processus de Bologne, si on le regarde par le petit bout du LMD et la façon dont sont mis en place les UE, voilà, quand on reste sur le terrain, c'est peut-être pas idéal tout le temps. Ça, j'en conviens. Mais l'esprit du processus a permis de remettre depuis, disons, 5 ans, à peu près, les universités au centre du débat, en France en particulier. Et de rejoindre ce qui n'était pas évident. Alors là où je ne suis pas d'accord à ce que tu as dit non plus, tu as dit la France a infecté Bologne. Alors je pense que Eric sera d'accord pour dire que bien qu'il ait été président de l'EUA, il ne peut pas dire qu'il a été secondé par les universitaires français très fortement au début. Hein. Il était plutôt un cas isolé. Et l'influence, en gros, de la CPU française sur les universités européennes, je m'avance pas beaucoup si je dis qu'elle n'est pas très forte. Hein. Et que avoir des présidents d'université, par exemple, dans 15 jours à Prague, c'est pas évident.
Je sais. Hein, tu le sais. Mais, donc, pour renforcer ce point et pour montrer que c'est pas qu'un problème français, les pays de l'Est, qui avaient la tradition des académies.
Oui, eux, ils ont pris Bologne pour se défaire des académies, ça, c'est très clair.
Mais oui, mais c'est important de réintégrer la recherche dans les universités dans ces pays-là.
Hein. Mais pour répondre à Daniel, donc on met l'université au centre de la discussion. Très bien. Pendant ce temps, les écoles augmentent leurs effectifs. Ça fait je ne sais combien d'années qu'on nous dit qu'on va nous débarrasser du CNRS. Il est toujours là. Donc il y a une façade, il y a un discours et une réalité.
Oui, mais si vous voulez, le processus de Bologne, là aussi, quand même, il gêne quand même le CNRS. Hein. Mais pour être au-delà de la CPU, du côté là, pour bien montrer que justement je n'encense pas cette ministre n'importe comment, parce que du point de vue européen, ça n'a pas. C'est quelqu'un qui avait la capacité, puisqu'elle parle les langues étrangères, ce qui n'est pas toujours le cas de nos ministres, et ce qui quand même aide quelquefois dans les réunions européennes, eh bien, il n'y a aucune fibre. Enfin, moi, j'ai rien senti dans tout cet espace de temps. Donc, il n'y a pas de soutien profond. Donc, il y a des caractéristiques positives, il y a des caractéristiques éminemment négatives. Et il n'y a pas plus de dynamique française en dehors du moment de la présidence imposée par les faits, mais qui est une fois que vous avez sorti ce morceau-là, il n'y a rien qui transparaît. Ça, c'est dramatique. Oui. C'est dramatique parce que on n'emmènera pas des universitaires et des universités sans avoir un minimum de vision et de personnages. Bon, là encore, Allègre a eu ce mérite-là. Allègre a eu ce mérite d'à un moment donné d'avoir un discours assez ferme, assez volontariste. On a besoin de t'entendre ça.
Merci.
De rien, merci, non, c'est moi.